un immense merci à toute l'équipe organisatrice de la SIPA. Chacun peut l'imaginer, organiser un tel congrès représente une tâche immense et pourtant une tâche tellement utile dans le contexte socioculturel qui est le nôtre aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se dit parfois si hâtivement en matière d'autisme. Donc un grand merci, vraiment, je ne peux pas nommer toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation, mais évidemment tout le bureau, tout le comité scientifique, tout le CA, un grand merci, nous leur devons un grand merci. Alors j'ai peu de temps, bien entendu, car notre programme est dense, mais je voudrais tout de même profiter de cette introduction pour faire quelques remarques sur certains aspects formels, d'abord du congrès, et puis sur le thème qui a été choisi, c'est-à-dire le monde interne des personnes autistes. Alors, sur le plan de la forme, d'abord, quelques remarques. Je salue tout d'abord la présence des quelques parents qui, avec leurs enfants, ont participé activement à la réalisation de plusieurs vidéos valant comme témoignage de la question du monde interne. Je salue ensuite la dimension internationale de ce congrès, puisque nous accueillons aujourd'hui, excusez ma petite recension, 4 collègues brésiliennes, je ne peux pas nommer tout le monde, une collègue argentine, 2 collègues italiennes, une collègue britannique, Maria Roth, je crois, qui sera là, peut-être déjà, 4 collègues suisses, 6 collègues belges, 2 collègues bulgares, une collègue espagnole, une collègue grecque. Donc, il y a une dimension internationale intéressante. Je salue également, alors c'est moins loin, mais quand même, la présence de collègues venus de toute la France, alors que, je le répète, certaines des régions sont encore en vacances. Et je salue enfin, et c'est très important à mes yeux, la présence de 66 étudiants parmi nous, à qui je souhaite chaleureusement la bienvenue, ainsi qu'à tous nos adhérents, bien sûr, et aux membres de notre conseil d'administration. Alors, tous ces chiffres sont précis parce que, justement, pour des questions de sécurité, on sait exactement qui on est. Il n'y aura personne d'assis sur les marches, malheureusement, parce qu'on aurait pu faire entrer d'autres personnes. Je n'ai même pas pu faire venir les personnes de mon équipe. C'est ça la démocratie, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on est un grand nombre, mais un grand nombre fini et très contenu. Voilà, alors par rapport au programme que vous avez en main, eh bien, nous avons eu beaucoup de mal finalement à obtenir la présence de journalistes, comme toujours, ce qui nous interroge, puisqu'on avait prévu une table ronde conclusive avec 2 journalistes, soit de Libération, soit de Marianne, soit des deux, pour des raisons que je ne vais pas développer, ils ne sont pas là, je ne peux que le regretter, donc cette table ronde va être sous une forme un peu différente. Nous aurons un débat pour conclure, enfin une reprise, Dominique Ami, moi et Bernard Martineau, qui est là parmi nous, tout cela, qui va assister à l'ensemble du congrès et qui nous relancera à partir de son point de vue de cinéaste, spécialiste des soins précoces apportés aux très jeunes enfants. Alors j'en dis quelques mots, Bernard Martineau est un ami personnel dont j'admire vraiment l'intelligence et la profondeur de la pensée, ainsi que la force de l'engagement en faveur de l'enfance. Il est le réalisateur de plusieurs documentaires sur l'enfance, et notamment, je pense que chacun s'en souvient, de ce document culte réalisé par la télévision en 1984, « Le bébé est une personne ». C'est un document qui a véritablement marqué un tournant dans notre vision du développement des bébés. Et puis il a aussi réalisé 2 films importants sur les travaux de l'Institut Pikler Loxi à Budapest. Loxi, une maison pour grandir en 2000, et Loxi, une école de civilisation en 2014. Et nous avons le projet, lui et moi, de tourner quelque chose, un de ces jours, prochainement, à propos de l'autisme. Il était donc particulièrement bien placé, me semble-t-il, pour participer à notre congrès et pour intervenir comme témoin et comme discutant à l'issue de ces 2 jours. Je le remercie très sincèrement, très chaleureusement, d'avoir mis ainsi son temps à notre disposition. Dernière remarque formelle, dans la salle pour les pauses, il y a des posters, des documents qui ont été installés. 3 documents très importants, une lettre ouverte de Louisa Rousseau de Naples, un document aussi qui nous vient du Brésil, le mouvement pour la psychanalyse, l'autisme et la santé publique. C'est un mouvement qui est présidé par Claudia Mascarenhas Fernandez, qui est parmi nous. Et puis la déclaration de Carthagène de Monica Santolalla, qui est là également, au nom de la Fédération donc, psychanalyse d'Amérique latine. Voilà pour les remarques formelles que je voulais faire en introduction. Et maintenant, quelques brèves remarques sur le thème du monde interne, qui, je crois, est un beau thème et un thème important. Le choix de ce thème s'enracine dans l'avis numéro 102 du Conseil consultatif national d'éthique qui a été rendu en 2007, en décembre 2007. C'était un avis organisé sur la question de la situation en France des personnes atteintes d'autisme, et cette réflexion avait été à l'époque donc présidée, organisée, coordonnée par Jean-Claude Ameisen. On entend à peu près ? Oui. J'avais été parmi les personnes auditionnées et cet avis se terminait par une recommandation fort intéressante qui m'avait alors frappé, recommandation qui nous incitait à approfondir nos études du monde interne des personnes autistes afin de pouvoir mieux nous représenter leur vision du monde et donc de pouvoir plus efficacement les aider à mieux vivre. Alors la notion de monde interne est une notion complexe dont je voudrais dire quelques mots en ouverture de ce congrès. La notion de monde interne renvoie bien sûr à la question à la mise en place des représentations mentales, c'est-à-dire à la mise en place de l'appareil psychique, tout simplement. La dimensionnalité psychique de ce monde interne avait déjà été évoquée et travaillée, chacun le sait, par Donald Melzer, qui avait distingué l'unidimensionnalité, la bidimensionnalité avec la lésivité, bien sûr, la tridimensionnalité avec la question de l'intériorité et la quadridimensionalité avec la question de la temporalité. Mais la constitution du monde interne s'enracine dans le jeu des interactions précoces qui se joue dans le registre interpersonnel, et c'est ce jeu interactif qui donne accès à l'intersubjectivité, c'est-à-dire à la découverte de l'autre dans la réalité externe, en tant qu'objet extérieur à soi-même. La découverte de soi et la découverte de l'autre sont indissociablement et intrinsèquement liées. Cette dynamique des interactions doit alors s'inscrire, je vais dire ensuite, je ne sais pas si c'est ensuite ou en même temps, mais cette dynamique des interactions doit également s'inscrire intrapsychiquement sous forme de traces dont nous parlera tout à l'heure François Ansermet. Il s'agit d'un processus d'intériorisation de ce qui s'est d'abord passé dans le registre interpersonnel, d'intériorisation, d'intrapsychisation, auquel doit s'ajouter un processus de renversement en miroir, je vais en dire un mot, de spécularisation. L'intériorisation porte sur tout ce que le bébé observe de son environnement, notamment les réponses des adultes à ces signaux d'attachement. Ces réponses vont s'inscrire dans son psychisme débutant sous la forme des fameux modèles internes opérants d'Inger-Bresserton. Mais il observe aussi le style interactif des adultes qui prennent soin de lui, et ces inscriptions vont se faire sous la forme de ce que Stern a appelé les représentations d'interaction généralisées. Mais je voudrais insister un tout petit peu sur l'idée de spécularisation, de renversement en miroir. Parce que c'est cette spécularisation qui permet de passer de l'intersubjectivité qui se joue dans la réalité externe à la subjectivation qui se joue dans le monde interne, justement. Accéder à l'intersubjectivité n'est pas encore la même chose qu'accéder à la subjectivation. Car que la subjectivation, c'est la capacité de se percevoir soi-même comme un sujet. Et pour cela, il faut pouvoir prendre en compte que les objets qu'on a découverts au dehors sont bel et bien, de leur côté, eux-mêmes, des sujets dont nous sommes l'objet. C'est ce que René Roussillon, dans notre travail sur la naissance de l'objet, a appelé, je crois que c'est un très bon terme, l'objet autre sujet. Tout sujet est l'objet de ces objets qui sont eux-mêmes des sujets. On est bien dans une spécularisation. Dans un renversement en miroir, c'est le passage du moi au je. Bien entendu, Lacan a apporté une contribution essentielle à ceci. Mais Geneviève Hague, Il y a aussi insisté, quand elle décrit la crise des 2 ans et demi, où l'enfant va passer du moi au je, ce qui est un travail extrêmement subtil. Je le dis souvent, si l'autisme est effrayant, quelque chose de l'ordre de l'effroi, le développement normal a quelque chose de l'ordre du miracle. Pourquoi 99% des enfants passent du moi au je? Quand on leur parle, on leur dit tu. Quand on en parle devant eux, on dit il ou elle. Et un jour, du dedans, il faut qu'ils comprennent, je ne sais pas si c'est le bon mot, qu'ils éprouvent, qu'ils peuvent nommer du dedans, en disant je, la même chose que ce que les autres désignent par tu quand ils lui parlent, ou par il ou elle quand ils en parlent. Eh bien, évidemment, on les aide sans doute à ça, mais quand même, bravo. Hein, bravo à 99% des enfants qui arrivent à jouer cette spécularisation. Intériorisation et spécularisation sont ce qui permet de passer de l'intersubjectivité à la subjectivation. Alors évidemment, tout ceci est en souffrance chez les enfants autistes, et ce d'autant que la découverte de l'objet externe passe par la synchronisation polysensorielle autour de laquelle tournent tellement de travaux en ce moment. On peut appeler ça démantèlement, si on se réfère à Melzer et la psychanalyse. On peut appeler ça commodalisation ou décommodalisation, si on se réfère aux sciences cognitives. Et on voit qu'on a là, en dépit de toutes les polémiques actuelles, on a là des ponts extrêmement importants entre les acquis de la psychanalyse, les recherches de la psychanalyse, et les acquis et les recherches des neurosciences. Quand l'enfant autiste sort de sa bulle, à l'instar du bébé qui découvre son environnement, la découverte des objets de son monde externe lui pose problème. Et il y a alors un risque de repli sur de monosensoriels, des stéréotypies sensorielles par exemple, qui privent l'enfant de pouvoir vivre ses objets en extériorité, c'est-à-dire d'accéder à l'intersubjectivité, ce que nous appelons souvent, quand on en parle vite, la dévitalisation. Et on voit bien la menace qui pèse alors sur la constitution du monde interne de l'enfant. Et c'est tout l'art de l'intervenant, des intervenants, que de savoir préserver la synchronie polysensorielle pour que ces moments de reprise développementale ne soient pas étouffés par des manœuvres défensives à type de repli monosensoriel. Je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas être trop long, mais pour conclure, je soulignerai 3 points essentiels dans la perspective de ce congrès qui va, je le crois, je le sens, je l'espère, être formidable. Parler du monde interne est un moyen, me semble-t-il, de parler du comment plutôt que du pourquoi. Et ce peut donc être un moyen de dépasser, justement, les clivages entre les psychanalystes et les autres professionnels, d'autres disciplines. Parler du monde interne est une façon aussi de parler de l'aide que l'on se doit d'apporter aux personnes autistes pour leur permettre d'accéder à l'intersubjectivité et à la subjectivation. Et je rappellerai ici cette phrase importante de Frances Costin, je la cite de mémoire, « Quelle que soit la méthode employée, l'objectif avec les enfants autistes est toujours le même, à savoir leur faire sentir qu'un autre existe qui n'est pas un danger. » Et pour nous aujourd'hui, j'ajouterai, « Mieux comprendre le monde interne des personnes autistes est une manière de pouvoir partager quelque chose de leur monde interne à eux, une manière de leur faire sentir que leur monde interne et le nôtre peuvent différer sans que cela soit une catastrophe, ce qui ouvre sur la théorie de l'esprit, et que c'est parce que nos mondes internes diffèrent, justement, qu'ils peuvent interagir sans risque de fusion, d'engloutissement ou de collage, ce qui ouvre sur les identifications projectives normales. Parler du monde enfin, du monde interne enfin, c'est s'obliger à tenir compte du monde interne des enfants autistes, mais aussi de celui des parents et des professionnels. Et c'est ce pari que nous avons essayé de tenir en élaborant ce programme du 3e congrès de la CIPA. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite, je nous souhaite un très très beau